Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisque nous sommes chez Monsieur Guy Perrault. Monsieur Perrault, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Perrault, nous sommes là pour annoncer aux auditeurs deux concerts que vous donnerez prochainement avec l'ensemble Béatrix. Et ça sera le mercredi 21 à 17h à Poney, au temple de Poney, Saint-Auban. Et ensuite, le lendemain, jeudi, à 21h à Minglan, au temple aussi de Minglan. Le concert à Minglan ou à Poney, Saint-Auban, concernera quelle musique ?
Alors, nous commençons à l'époque médiévale, la fin du médiéval. Alors, on peut dire le compositeur le plus connu, Monteverdi, et puis d'autres compositeurs de son époque. Et nous passons par le baroque, par Handel, Jean-Sébastien Bach et Mozart.
Donc, l'ensemble Béatrix, on peut peut-être présenter cette formation qui sera composée de 4 musiciens que vous pouvez nous présenter, donc.
Oui. Alors, 4 musiciens, disons que, oui, un chanteur, on peut considérer qu'il est musicien. Disons que, en tant qu'instrumentiste, il y a monsieur Christian Donis qui fait le sacrifice de venir une fois par mois répéter 4 heures de valence. C'est un grand, grand musicien de plusieurs flûtes de bois, magnifique. Donc, différentes sonorités et différents doigtés. Donc, c'est Christian Donis, c'est flûtiste. Ensuite, comme instrument, c'est le virginal, donc l'ancêtre du clavecin. C'est moi qui accompagne, je ne fais qu'accompagner, c'était un instrument pour accompagner. Il se peut que je joue un morceau seul au virginal pour faire découvrir cet instrument. Ensuite, vous avez 2 chanteurs. Alors d'abord, Virginie Hermelin, qui est soprano, qui vient d'Embrun et qui vient d'ailleurs en moto. Une grosse moto. Et puis monsieur Alain Marion, qui vient de la Bégue de Mazin, une fois par mois aussi répété, et qui est baryton Martin.
Vous vous présenterez au public avec des compositions que vous interpréterez. On peut peut-être citer les auteurs ou les compositeurs que vous mentionnerez.
Alors donc, il y a Monteverdi, Claudin de Sermisy et puis d'autres de cette époque-là, qui est donc tout à fait l'époque du virginal, c'est-à-dire l'époque de François Ier, 1550, même avant 1450, on peut voir sur les tableaux de Vermeer déjà la demoiselle au virginal. Donc après, nous passons plus loin avec Jean-Sébastien Bach, avec Benedetto Marcello et on termine avec Mozart.
Du médiéval au baroque. Les musiques que vous proposerez, celles de Monteverdi ou de Claudin de Sermisy, ce sont des musiciens qui sont dans une phase à cette époque-là de transition ?
Absolument. C'est rigoureusement exact. Voilà, nous, c'est la fin du médiéval et le début du baroque. Voilà. Et pour l'instrument, on peut dire qu'on a continué à se servir du virginal. On ne peut pas jouer très vite parce que c'est une mécanique qui est fragile. Hein. Ce sont des sautereaux qui ont pris le nom avant de Virgile, du nom de virginal. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle ça s'appelle un virginal, on présume que c'était des jeunes demoiselles qui jouaient de cet instrument. Et très vite, les fabricants, les luthiers ont vite rajouter un clavier parallèle au premier clavier, non pas au-dessus, pour que les troubadours puissent jouer avec les demoiselles. Et du coup, là, ils jouaient soit à 4 mains, soit à 3 mains. On ne va pas épiloguer sur ce passage. Voilà.
Cette invention est due à... cette invention du virginal est due à quelle personne ?
Alors, elle a été inventée, on n'a pas les documents exactement. Elle a été inventée en Angleterre et elle a été améliorée. Mais c'est un progrès qui s'est fait sur à peu près 70-80 ans. Voilà. Alors, on a vite abandonné le jour où on a trouvé le clavecin, parce qu'il faut deux ans et demi pour fabriquer un virginal, qui, comme je vous dis, qui reste très fragile et qui ne permet pas une grande vélocité à cause de la mécanique. Alors que le clavecin, lui, il ne tombe jamais en panne, il a un volume beaucoup plus important et il permet, bien sûr, de jouer avec une grande vélocité, une grande virtuosité.
D'ailleurs, au cours de cet entretien, vous prendrez un peu de temps pour nous proposer une écoute.
Je voulais quand même vous informer qu'il n'y en a que 54 en Europe et que ce Virginia, je l'ai fabriqué moi-même. Avant de commencer mes études de musicologue et de professeur de piano et de musicothérapeute, j'adorais travailler le bois depuis mon enfance. Donc, je me suis amusé à passer 3 CAP, menuisier, ébéniste et marketeur à l'annexe de l'école Boulle qui se trouve à Revel, ce qui m'a bien rendu service pour fabriquer cet instrument virginal. Je vous rappelle que le son que l'on entend quand on joue du virginal, en fait, c'est un petit morceau de plume d'oie qui est coupé en forme de triangle. Ce triangle mesure exactement 5 mm de long sur 2 mm de large. C'est pour cela que le son est très doux et que l'on a besoin absolument d'avoir des voûtes pour que l'instrument puisse être entendu, bien que ce soit un instrument pour accompagner et non pas pour jouer en soliste.
Ces morceaux de plume que vous utilisez, donc, je suppose qu'il y a une usure assez rapide et donc c'est beaucoup d'entretien aussi.
C'est un travail qui est permanent. C'est un petit peu ce qui est à la fois passionnant et un peu agaçant parce que la plume d'oie peut éclater, passer, s'échapper lorsque vous jouez. On est obligé d'arrêter le concert pour remettre. Ça se fait relativement vite, mais on est obligé donc d'être là en permanence pour réaccorder et surtout changer ces petits morceaux de plume d'oie.
C'est peut-être dû à ça que cet instrument n'est pas très connu, en somme.
Oui, il n'est pas très connu. Alors, justement, je vous disais que c'est très long à fabriquer. On ne peut pas le fabriquer en série. Et il permet que de jouer de la musique de l'époque médiévale. Alors moi, je fais l'effort de jouer là du Mozart et du Jean-Sébastien Bach, mais c'est uniquement dans des morceaux lents. Les deuxièmes mouvements des concertos. Notre concert, c'est de la musique qui est basée sur l'interprétation, sur le ressenti. Ce n'est pas dans la vélocité.
Cet instrument donc que vous avez fabriqué, vous vous êtes documenté certainement pour en avoir les plans. Ça a été difficile. Il existe justement des archives pour pouvoir les construire.
Oui, alors moi, c'est un ami qui était professeur aussi d'université et qui m'a dit d'aller en Angleterre pour me procurer ces documents que je n'ai pas pu retirer. Il fallait que je les regarde, que je les compulse sur place. Donc c'était assez difficile, mais bon, j'ai essayé de retenir et de fabriquer cet instrument où j'ai mis plus de 2 ans et demi pour le fabriquer, mais je suis assez fier parce que il a une sonorité, vous verrez, enfin je ne sais pas avec la radio, mais qui se rapproche plus de la mandoline qui est un son plutôt perlé, plutôt que le clavecin qui a un son un petit peu aigrelé. Voilà.
Métallique,
oui, voilà.
Donc, ça vous a pris 2 ans et demi pour construire cette virginale. On dit une virginale, un virginal.
Et d'ailleurs, au pluriel, on dit des virginales et non pas des virginaux.
Ça, c'est encore un mystère de la langue française. On peut parler un peu peut-être des musiciens qui joueront et des chanteurs qui viendront aussi interpréter pour ces deux soirées.
Oui, alors écoutez, Christian Donis, en fait, c'est un monsieur qui a donné un concert déjà dans la région et à Poney notamment, et je l'ai carrément kidnappé. Et je pense qu'il a subi le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il a apprécié ses kidnappeurs et c'est pour cela qu'il vient jouer de Valence. Je ne sais pas exactement quel métier il exerce, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler, mais je peux vous parler de M. Alain Marion, qui en fait est professeur de cuisine bio et qui pratique donc aussi la cuisine bio. Qui a été directeur de la colonie de vacances de Die fut un temps, mais maintenant il a repris son travail. Et puis j'ai découvert qu'il avait une voix extraordinaire, donc je l'ai fait travailler pendant maintenant presque 10 ans pour travailler cette voix dans l'interprétation.
Cette idée, oui, on peut parler de Virginie Hermelin aussi.
Alors, ses parents habitent dans la région, mais c'est une personne de caractère absolument délicieux, qui a une voix magnifique. Et elle fait le sacrifice de venir d'Embrun une fois par mois. Alors, heureusement, elle peut voir ses parents et sa sœur qui sont dans la région. Mais figurez-vous que son carrosse, c'est une très grosse moto. Alors, c'est assez surprenant de voir cette personne qui arrive avec ses habits de moto et son casque et puis chanter du Mozart. C'est très sympathique.
L'ensemble Béatrix, on peut supposer que Béatrix tire son nom de cette comtesse de Die.
Comtesse qui était poétesse, mais aussi première femme troubadour de France, on entend souvent sur France Musique, et c'est pour cela que j'ai choisi ce nom. Tout simplement pour en honneur de la ville, parce que moi j'aime beaucoup le Diwa, bien que je ne sois, vous devez le voir à mon accent, c'est l'accent typiquement cévenol, et de par ma mère, et puis espagnol de par mon père, mais ça fait plus de 45 ans que j'habite le Diwa, et c'est une région que j'affectionne, non seulement par l'environnement, mais aussi par le peuple. J'aime beaucoup les Diwa en général, voilà.
Béatrix de Die, ou Béatrice de Die, venait de Marseille, je pense, pour épouser un notable local du Diwa. Et on connaît d'elle très peu de chansons qui existent. Je crois qu'il y en a deux textes qui existent actuellement. Oui. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce personnage ?
Alors, je connais sa vie, mais j'ai su simplement que pour se procurer des documents, il faut s'adresser au diocèse et surtout voir la bibliothèque du pape, en fait. Et c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de documents, donc au Vatican.
C'est dû à quoi cette possession du Vatican sur ces documents? Il y avait un rapport entre Béatrice de Die et l'Église?
Je ne pense pas. Vous savez, souvent, c'est pour cacher des vies qui ne sont pas souhaitables pour le public. Et on récupère des lettres comme ça, on récupère l'histoire qui a pu être écrite à l'époque sur ces personnages. Et ça évite de ne pas révéler certains faits qui ne seraient pas souhaitables.
Pas très catholique.
Pas très catholique, exactement.
Et puis, on revient un peu sur cet instrument, le virginal. Vous l'avez découvert à quel moment et à quelle occasion, cet instrument?
J'avais entendu cet instrument, je crois, avec un ami qui me l'avait fait entendre sur Internet. Mais comme je vous dis, il y en a très peu et surtout très peu qui fonctionnent. Il y en a beaucoup dans les musées et j'avais trouvé le son absolument délicieux. Et je m'étais dit que ce serait bien que je laisse un petit peu mon instrument principal qui est le piano, parce que j'ai travaillé donc deux instruments, trois, mais mon père m'avait obligé à faire de la batterie lorsque j'étais jeune et ça m'a donné une indépendance, ce qui m'a permis de jouer des grandes orgues à Le Vigan, dans les Hautes-Cévennes. Mais comme j'adorais la musique de Chopin, j'ai choisi le piano et à partir de là, j'ai fait des études assez poussées pour être interprète au piano. Et puis ensuite, pour passer des diplômes de pédagogie, parce qu'on peut être à la limite bon instrumentiste, mais mauvais pédagogue. Donc j'ai suivi des cours de pédagogie, d'abord pour enseigner aux enfants, mais surtout pour enseigner aux adultes. Voilà. Et je suis spécialisé dans la musique de Chopin ou la musique espagnole lorsque je donne des concerts dans mon pays, deuxième pays, en Espagne. Voilà.
Tout à l'heure, hors micro, vous me disiez donc que le virginal donc est issu de l'époque de François Ier, au début du XVIe siècle. Ensuite, ça c'était en amont de l'épinette qui aura suivi, et puis ensuite le clavecin. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des tentatives pour créer d'autres instruments de ce type ?
Sans doute, mais comme je ne suis pas spécialiste de cette époque-là, je ne pourrais pas vous donner de réponse. C'est comme dans tous les instruments, on fabrique des instruments et puis on s'aperçoit que c'est difficile d'en jouer parce qu'il ne faut pas confondre celui qui fabrique l'instrument et puis celui qui doit jouer. C'est tout à fait différent et souvent des instruments ont été abandonnés parce qu'ils n'étaient pas pratiques à jouer.
les bois qui sont utilisés pour sa construction. J'imagine que vous avez tenté de trouver les mêmes essences qu'à l'époque.
Alors, les mêmes essences, je vous dirais qu'elles ne sont pas obligatoires. Il n'y en a qu'une seule qui est absolument obligatoire, c'est celle qui est la table d'harmonie, qui est faite pour la table d'harmonie. Il faut, écoutez bien, que ce soit de l'épicéa qui est poussé à 300 mètres de haut du côté nord. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de nœuds et la résonance se fait dans les fibres et donc il faut que ce bois ait bien séché. C'est surtout le bois le plus précieux pour la sonorité dans un instrument de musique comme le virginal. Le reste, après, ce sont des bois plus ou moins précieux.
Et les cordes, à l'époque, étaient constituées de quel type de matériaux ?
Alors, je pense qu'on a dû commencer avec soit du boyau de chat ou du boyau de lapin. Hein. Et puis après, c'est passé au métallique, parce que finalement, les cordes sont très anciennes, qu'on avait trouvées déjà il y a fort longtemps. Voilà. Donc, les cordes actuellement sont métalliques. Elles sont très fines. Ce sont des cordes pas plus grosses que celles d'une guitare. Hein. Ce n'est pas du tout comparable au piano. Puisqu'un virginal doit avoir à peu près une poussée de 80-90 kg, alors qu'un piano à queue a besoin d'un cadre en fonte parce qu'il a 22 tonnes de traction. Voilà, donc il ne faut pas confondre.
Il y a combien d'octaves sur ce clavier ?
Il y a exactement 4 octaves. Hein ? Donc vous avez donc la fameuse gamme diatonique do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hein, on ne doit surtout pas dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sinon quand on répète le do, on recommence une gamme. Et puis, bien sûr, chromatique, c'est-à-dire qui comprend les dièses et les bémols. Voilà. Alors, on est obligé de se débrouiller avec ce clavier à jouer les œuvres. Alors, certaines ont été écrites pour effectivement être jouées sur ces 4 octaves. Mais comme Mozart, on est obligé de jouer, de tricher un petit peu et dans les aigus revenir dans le grave. De même que lorsque je veux que le virgin soit entendu, je fais un exercice qui est assez complexe, je joue en octave brisée. Et c'est très difficile pour moi parce que tant pianiste, la distance qu'il y a entre un do, un ré n'est pas la même que celle du clavier du virginal, et le cerveau a d'énormes difficultés à prendre cette réduction pour jouer en octave. Mais ça permet néanmoins d'entendre la mélodie.
Et pour cet instrument, j'imagine que certains compositeurs de l'époque ont écrit pour ce type d'instrument. Est-ce que vous en avez connaissance ?
Oui, alors justement, Monteverdi. Monteverdi vraiment a écrit énormément pour le virginal. Donc c'est pour cela que j'aime bien ce compositeur. Alors bon, après les autres, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, vous savez, les compositeurs à leur époque n'étaient pas très très célèbres. Quand vous prenez les dictionnaires de la musique, c'est inimaginable, sur 2000 pages d'un des dictionnaires que je possède là, vous en avez 1800 qui sont des compositeurs de l'époque de Monteverdi. Alors que dans l'époque romantique, dans l'époque baroque, vous en avez finalement très peu.
On peut peut-être présenter plus en détail les compositeurs et les propositions musicales qu'il en émane. Donc on peut commencer par Monteverdi, hein, puisque c'est un des principaux compositeurs de cet instrument.
Oui, alors... Ce que j'aime bien dans ce compositeur, c'est cette liberté que nous n'aurons pas ensuite avec, par exemple, Jean-Sébastien Bach, qui doit être assez rigoureux. La musique n'est pas écrite de la même manière. Donc, il y a une très grande liberté dans l'interprétation. Hein. Alors, moi, par contre, étant professeur spécialisé dans l'interprétation, il m'arrive d'avoir des élèves qui ont eu des prix de conservatoire et des médailles d'or et qui, depuis 8 à 10 ans, viennent me voir pour travailler uniquement l'interprétation. Donc, j'essaie de reproduire cela dans toutes sortes de musiques. Et c'est pour cela, comme je vous l'ai dit, que notre concert est constitué d'œuvres lentes et ressenti. Nous avons donné un concert à Piégro-Laclastre et il y avait beaucoup de dames qui avaient la larme à l'œil. Alors on était très, très heureux, finalement.
C'est une musique pleine d'émotions.
Exactement. C'est le but. C'est le but. Alors, d'abord, de faire découvrir cet instrument avec la sonorité, les gens sont toujours agréablement surpris. Et puis, effectivement, moi, le but, c'est de donner une émotion, que les gens partent avec un souvenir paisible.
Et donc, cette perception annonce les prémices de la musique baroque, si vous parlez d'émotion.
Oui, alors bien sûr, on a l'émotion, mais alors, comme je vous ai dit, dès qu'on est dans la musique que j'adore, la musique de Jean-Sébastien Bach, Handel et Vivaldi, là, on doit quand même respecter scrupuleusement ce qu'a composé le compositeur, ou alors, on joue un autre compositeur ou on improvise. Alors Mozart et beaucoup de compositeurs de cette époque avaient compris cela et ils laissaient ce qu'on appelle une cadence. Une cadence, ça veut dire que, par exemple, dans un concerto, il y avait une quinzaine de mesures qui étaient vides et l'interprète pouvait composer dans le style du compositeur. Hein, voilà, ce qui est très important. Voilà. Donc, mais le reste de l'heure, il fallait respecter scrupuleusement ce qui était écrit. Alors, comme je dis souvent à mes élèves, si vous êtes en voiture et qu'on vous dit « attention, la route a des défauts, il y a des nids de poules, va plus doucement », bon, tout le monde comprend. En musique, c'est extrêmement grave de confondre doucement et lentement. On peut jouer très vite et jouer pianissimo, c'est-à-dire très doux, et l'on peut jouer très lentement et jouer très fort. Hein, par exemple, comme dans certaines polonaises qui sont de Chopin, qui sont très fortes, mais qui sont lentes finalement.
Voilà. Tous ces compositeurs, par exemple Claudin de Sermicy ou Jean Plançon ou Regnault Pierre Sandrin, ce sont des auteurs qui sont quasi inconnus.
Voilà. Absolument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des milliers de compositeurs à cette époque-là qui ont fait des œuvres d'ailleurs magnifiques. Alors évidemment, tous les musiciens essaient de retrouver les documents, hein, parce que ce sont des musiques qui sont très très belles. Monteverdi, bon, mais il est très connu, mais je suis persuadé qu'on va découvrir des œuvres de ces compositeurs de la même époque qui sont absolument sublimes. Mais c'est difficile de se procurer les documents et les partitions qui n'ont pas toujours été conservées. Et puis il faut savoir aussi les interpréter, les déchiffrer, parce que voilà, à l'époque de 1450-1500, c'est une écriture encore différente.
Il n'y avait pas encore une méthode universelle d'écrire la musique.
Absolument. Ça dépendait des pays. C'était assez libre. Hein. On était encore dans le début du contrepoint et dans le plein chant. Ça avait commencé des siècles avant, mais les transitions sont toujours très difficiles. Hein. On avait les chorales qui faisaient le plein chant. Il n'y avait pas d'accompagnement. Hein. Par exemple, vous avez Jean-Sébastien Bach qui a écrit des inventions, et ce n'est pas un accompagnement qu'il y a à la main gauche, parce que d'habitude vous faites une valse où, par exemple, ma petite est comme l'eau, ça c'est la mélodie, et puis à la main gauche vous aurez un temps fort et deux temps faibles, boum tchom tchom, boum tchom tchom, ça c'est l'accompagnement. Ce n'est pas trop difficile, parce que vous n'avez qu'un hémisphère du cerveau qui travaille. Tandis que si vous jouez des inventions de Bach, là ce sont deux mélodies qui se ressemblent et qui se jouent en contrapuntique, c'est-à-dire en canon. Alors c'est un exercice extrêmement complexe pour le cerveau, et on a découvert qu'il n'y avait pas d'Alzheimer ni de Parkinson chez les pianistes qui ont le niveau fin de quatrième année. Sur 151 millions de pianistes en Chine, niveau quatrième année, ce qui est très peu par rapport au nombre d'habitants de la Chine, aucun Alzheimer ni Parkinson. Alors certains ont bien sûr des maladies neurologiques autres, et puis ils ont des cancers ou des maladies microbiennes, mais c'est M. Changeux, un grand psychiatre, neurologue, qui a découvert cela. Il a été invité à la Chambre des députés, et tous les députés se sont levés pour l'applaudir et pour le féliciter de cette découverte. Un cerveau a été projeté sur un écran et l'on voit une dame pianiste qui commence à son invention, et on voit les liquides des hémisphères droit et gauche qui n'arrivent pas à se rejoindre. Et lorsqu'elle revient la semaine d'après, où elle a étudié son invention de Bach, on voit les deux liquides qui se rejoignent, mais surtout qui envoient des jets dans la zone du cerveau qui ne fonctionne jamais. et qui sollicitent des neurones et des synapses qui n'ont jamais fonctionné et qui prennent donc le relais, on pense, de ceux qui ont été détruits par certaines maladies. Voilà.
Voilà, on ne va pas s'étendre sur certains aspects de votre vie professionnelle. On peut peut-être passer à une écoute de cet instrument.
Monteverdi.
Merci. Sur au-dessus du clavier, il y a un papier collé. Il signifie quoi, ce texte ?
C'est une phrase sur la musique. Comme si je vous disais, la musique adoucit les mœurs. C'est un petit peu ça, le fait rêver. Je donnerai la traduction, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'avoue que j'ai oublié exactement la signification parce que c'est écrit en latin. Alors c'est une amie qui a pris de la peau pour faire les abat-jour et qui a découpé un morceau qu'il a légèrement brûlé et puis qui a écrit en latin. Alors j'avoue que j'ai oublié ce qu'elle a écrit, mais je l'ai conservé. Donc je dirais ça le jour du concert.
Alors, à l'écoute, effectivement, c'est un instrument extrêmement délicat à jouer. Il ne supporte pas la rapidité. Et puis même, au niveau du jeu et de la touche, ça nécessite quand même un appui affirmé.
Voilà. Absolument, absolument. Parce que il n'y a pas le double échappement, comme sur le piano. C'est deux instruments complètement différents. Hein. Le piano est un instrument à percussion. Ce sont des marteaux qui frappent sur la corde. Hein. Alors, les tout premiers piano forte, c'était de petits marteaux, mais c'était une révolution. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas jouer doux et fort avec un virginal, une épinette ou un clavecin. Alors on a appelé, on aurait pu leur donner un nom, mais ils étaient tellement contents de pouvoir jouer doux et fort, c'est-à-dire pianissimo et fortissimo, qu'on a conservé ce nom. Et en France, on a continué, un peu comme vous dites plus la télévision, vous dites la télé, on a continué à garder ce nom, le piano, qui en fait veut dire en italien le doucement. Les Allemands, eux, l'air de rien, même s'ils ont une langue un peu dure, elle est très romantique, et ils ont choisi le nom de clavier pour un piano droit et d'aile d'oiseau, flügel, pour le piano à queue. Ce n'est pas la même construction. Ça ne permet pas d'avoir une rapidité comme avec les touches de piano. Ce qui n'est pas le cas pour le clavecin qui, lui, a des cordes pincées, là, dans le virginal. Elles sont frottées, hein, exactement comme l'ongle d'un guitariste.
Et puis, le virginal est un instrument plus d'accompagnement que un jeu pour soliste.
Oui, absolument. C'est peut-être justement à cause de cette résonance qui est très réduite. C'est pas plus fort, je dirais, le volume qu'un luth. C'est pour cela que lorsque j'ai donné des concerts avec des guitaristes, notamment le fils adoptif d'Ivry Giklis, d'Alexandre Lagoya, et avec un violoniste qui était un ami d'Ivry Giklis, ils étaient ravis parce qu'enfin ils avaient un instrument qui les accompagnait sans les couvrir, parce qu'il est très important que tout de même que ce soit le soliste qui soit entendu.
La musicologie, ça a été quand même une grande part de votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer la musicologie ? Quelles sont les personnalités qui vous ont motivé pour l'être ?
Alors, je me suis toujours intéressé à l'histoire en général. Vous voyez, j'ai pris des chaînes spéciales parce que je m'intéresse à l'histoire en général. Mais comme j'étais passionné de la vie des romantiques, et notamment de la vie de Chopin et de la musique de Chopin et de la vie de George Sand aussi, qui était sa compagne, qui l'a bien aidé, je me suis rendu compte qu'en fait, la musique avait un rapport direct avec les états d'âme. Si on est triste, si on a de bonnes nouvelles, si on est en colère, si on peut exprimer avec la musique de Chopin, à travers des nocturnes, des polonaises, des mazurkas, un éventail des états d'âme. Donc, j'ai choisi d'enseigner uniquement en tant qu'intervenant universitaire la vie de Chopin et un peu de George Sand, mais c'était une autre personne qui était professeur de lettres, qui venait en même temps que moi raconter la vie de George Sand. Et l'avantage, c'est que le directeur des universités avait loué un piano, sachant que j'étais pianiste, plutôt que de passer des disques. Alors, vous imaginez, 300 étudiants qui sont musiciens, puisque je les avais au niveau de la licence et de la maîtrise. Et en Allemagne, puisque j'ai commencé à enseigner en Allemagne, c'était le Staatsexamen. Voilà. Donc c'est ce qui m'a amené à... C'est la musique de Chopin qui m'a amené à faire de la musicologie. C'est-à-dire, c'est non seulement l'histoire de la musique, mais il y a de la recherche. Hein. Il faut aller dans les bibliothèques et puis rechercher à travers les lettres, parce qu'à cette époque-là, on conservait énormément les lettres. Non seulement on conservait le double des lettres que l'on envoyait, mais on conservait aussi celles que l'on recevait. Donc on arrive à connaître la vie des compositeurs ou des grands personnages au jour le jour. Vous savez, la cuisine qui était faite à cette époque-là, vous avez... Les médecins, vous avez les habits de cette époque-là, et c'est passionnant. Moi, en tout cas, ça m'a passionné et ça continue de me passionner.
Guy Perrault, avant de nous quitter, on peut peut-être informer les auditeurs pour prendre contact ou réserver pour assister à ces deux concerts.
Alors, effectivement, là, il faut obligatoirement téléphoner au 04 75 21 80 62 pour réserver sur Poney, parce que le temple est tout petit et il y a de hautes personnalités qui seront là. Et donc, il y aura peu de place. Donc là, il faut absolument réserver. Mais... Nous donnons le lendemain, comme vous l'avez dit, le 22 à 21h à Minglon. Et là, je ne pense pas que ce soit nécessaire de réserver.
Je suppose que vous serez installé dans le cœur du temple à Poney, que j'ai vu hier, hein, pour l'exposition qui était là précédemment.
Alors, ce n'est pas la première fois que je donne des concerts à Poney. J'adore cet endroit. C'est un petit peu magique. Et puis, il y a une ambiance qui est intéressante. Et donc, nous sommes ravis de rejouer dans cet endroit.
Qui est voûté ?
Qui est voûté, oui, puisque c'est absolument important pour que le virginal soit quand même entendu, quoi.
Eh bien, Guy Perrault, je vous remercie de nous avoir reçus hein, dans votre habitation et de nous avoir permis de découvrir cet instrument. Et j'invite les auditeurs qui seraient intéressés donc, à assister à ces concerts donc, qui auront lieu les mercredis 21 au temple de Poney-Saint-Auban à 17h et jeudi 22 août au temple de Minglon à 21h. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Ben, je vais vous jouer du Bach, là, maintenant.
D'accord.
Je vais vous jouer...